forme de transition avec la prochaine présentation, parce qu'en fait, là, on est sur les outils, sur les pratiques, sur le développement de solutions. Et puis après, ce qu'en font les institutions et qu'en font les professionnels de ces institutions. Et c'est justement tout l'enjeu de cette rencontre de communauté, essayer de voir comment on s'en saisit, comment on les utilise, à quelle communauté ça s'adresse, comment ça s'intègre dans les évolutions des métiers. Et c'est justement la présentation, c'est une ébauche qui va vous être faite par Noémie Couillard, qui est sociologue à Indépendance, cofondatrice de Voix Publique et doctorante en Infocom, justement, sur ces questions de métier et d'un de ces titres les métiers.
Docteur.
Et docteur, pardon, oui.
Peut-être docteur.
Pardon.
Parfait. Oui, merci de cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, moi, je vais plutôt parler des politiques en ligne avec une présentation où l'idée est de revenir au tout début et de tracer un peu l'histoire jusqu'à l'invention du community management et une attention portée sur la communauté des professionnels qui ont participé à cette aventure. Du coup, je vais me baser sur mon travail de thèse qui a été soutenu en 2017, mais aussi sur la fin, sur un article qui reprenait en partie ce travail, enfin ces résultats de thèse, et qui a été augmenté par des résultats issus d'un rapport ministériel qui s'appelait « État des lieux du numérique » et qui va me permettre de voir et d'évoquer en fait les orientations actuelles, donc en 2018, des politiques culturelles en ligne des établissements et qui montre aussi les différentes conceptions de ces politiques à l'œuvre. Donc, mon travail de thèse, l'idée, c'était de travailler et de regarder les transformations professionnelles dues aux politiques culturelles numériques. L'idée, c'était de travailler au plus près d'un certain nombre de professionnels avec une participation, enfin une recherche-action. Donc, l'idée était vraiment d'observer les professionnels et les dynamiques en train de se faire avec une ethnographie en ligne et en présentiel, et notamment avec tout un tas d'événements ministériels dont je vais rappeler aujourd'hui l'existence et l'histoire, et ces rencontres informelles de ces futurs et professionnels à l'époque qu'on a appelés les muséokiques. Je vous ai juste mis la partie dans la thèse où je parle du coup de cette histoire des politiques culturelles numériques, qui est une histoire qui est une ébauche, qui nécessiterait d'être vraiment complétée et qui, moi, m'a permis en fait de poser mon terrain sur quelque chose qui n'était pas justement toujours basé sur l'idée d'une rupture et d'une innovation continuelle, mais plutôt de dire, mais finalement, où est-ce qu'on se situe dans cette histoire du lien entre les musées et l'informatique. Du coup, pour faire cette histoire, plusieurs sources ont été utilisées. Une grande partie de littérature professionnelle, avec quelques guides professionnels, mais beaucoup aussi d'articles écrits et souvent par les initiateurs et les initiatrices des différents projets, donc des articles écrits dans un certain nombre de revues professionnelles ou de recherches. En tout cas, les professionnels écrivaient au titre de professionnels dans ces revues. Donc, c'est une littérature qui est relativement abondante et souvent qui est composée de quelques pages descriptives des projets, des fois de leur mise en œuvre, des difficultés et des effets qu'on espère avoir de ces projets. On a aussi une littérature universitaire qui permet de retrouver un certain nombre de traces de ces projets qui sont souvent... donc, une littérature qui peut être aussi en partie grise, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans les bureaux des personnes souvent au ministère ou des commanditaires pour en retrouver la trace, qui sont souvent des analyses sémiotiques, des sites internet, des dispositifs, beaucoup d'analyses de discours aussi qui met justement à distance ce paradigme de la nouveauté et de la rupture. Et c'est une littérature qui est un peu plus restreinte et souvent avec des approches critiques. Et donc, à partir de cette littérature, on peut retracer un certain nombre de jalons depuis les années 70. Et dès à présent, il faut faire une précision donc sur un terme que moi j'utilise, qui est le terme des politiques culturelles numériques, qui est un terme que j'emploie, mais qui n'apparaît quasiment nulle part, ni dans les textes professionnels, ni dans les textes ministériels, ni universitaires. En fait, il apparaît une première fois en 98 dans ce qu'on va appeler le plan d'action pour la généralisation de la société d'information, le PACSI, où six axes prioritaires en fait sont décrits pour le développement des nouvelles technologies en France. Le deuxième axe, c'est l'adaptation au numérique des outils de la politique culturelle. Et donc, à ce moment-là, les technologies de l'information et de la communication sont donc inscrites comme un des enjeux politiques que doit relever le ministère de la Culture et de la Communication. Mais pour autant, on voit bien, quand on retrace un peu cette histoire, qu'il existe des objets numériques ou des actions, des projets numériques voilà, qui ont lié informatique, musée et patrimoine, qui existent bien avant 98, au sein du ministère et dans quelques établissements patrimoniaux. Ces initiatives préexistent et vont permettre en fait de formuler ces directions, les directions que va prendre cette politique et où l'importance de la numérisation des collections est un des axes structurants qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc ce plan, ce PACSI, en fait, c'est pas le seul. C'est depuis les années 70, on a plusieurs rapports ou plans, en fait, qui vont inscrire les TIC comme un projet de société, c'est-à-dire comme une source d'accroissement économique. Et ces plans vont s'accélérer dans les années 90. On peut citer le plan Calcul, le rapport Noraminck, le rapport Théry sur les autorités de la formation. Et à partir de 98, en tout cas pour la culture est désignée comme un des champs d'application et il va y avoir des financements à partir de ce moment-là. Il est à signaler que l'histoire des politiques culturelles numériques ne se réduit pas à cette frise. Si on voulait la compléter, il faudrait évidemment ajouter les jeux vidéo, par exemple la musique électronique et le rôle de l'IRCAM, ou encore tout ce qui va tourner autour de l'art numérique et le rôle du CNAP à cet endroit-là. Donc là, c'est vraiment ce qui lie plutôt musée et informatique. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que cette chronologie montre qu'il n'y a pas de définition du numérique, mais plutôt une diversité d'actions faisant intervenir des appareillages et des applications techniques très diversifiées. On a des bases de données, des serveurs, des CD-ROM, des éditions et des productions multimédia, des sites Internet, des boards in situ, des applications, etc. Donc, on voit bien que le numérique, à cet endroit-là, prend une définition technique et technologique qui est très diverse. On voit aussi, grâce à cette frise, qu'il y a des actions qui sont structurantes. Encore une fois, les bases de données et la constitution, les numérisations liées des collections en est vraiment un des objets, des actions structurantes fortes. Il y a aussi des tentatives de créer des objets culturels spécifiques, comme par exemple les CD-ROM, qui vont être financés en partie par des fonds publics, et qu'ils ne vont pas trouver forcément d'usage parmi les publics. Et à ce moment-là, cette production va s'arrêter. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il y a certaines innovations en termes d'objets nouveaux qui vont rater. Et il y aura un autre exemple tout à l'heure de quelque chose de similaire. Un des derniers éléments par rapport à cette frise, donc je vais évoquer ce qui va toucher plutôt donc aux politiques en ligne, donc les sites internet entre autres. Ce qui est important à ne pas oublier dans cette histoire, c'est qu'elle est aussi possible grâce à l'informatisation des pratiques professionnelles et les transformations qui vont en découler, quelque chose qui est assez peu documenté. Et qui va permettre aussi à ces projets de se développer. Et par exemple, on peut citer la thèse de Nicoletta Beltram sur l'informatisation de l'inventaire, qui est un des rares cas documentés de la manière dont l'informatisation de ces pratiques professionnelles va pouvoir aussi donner appui à un certain nombre de projets face public ou pour les publics. Alors, rapidement, à partir des années 70, les premières bases informatiques vont être créées dans le cadre de programmes de recherche lancés par le ministère des Affaires culturelles afin de se doter d'outils de connaissance du patrimoine français. Donc, la base Joconde, la base Léonore, la base Cigale, donc un certain nombre voilà, de bases qui vont référencer les peintures, un certain nombre de sites archéologiques, les titulaires de la Légion d'honneur, la base Arcade sur les acquisitions d'œuvres d'État et la base Mérimée qui existe encore, comme la base Joconde, qui documente l'inventaire général. À cet endroit-là, par exemple, on voit naître les premiers guides pour les professionnels et les premières réflexions sur la normalisation des descriptions qui apparaissent à ce moment-là. En 1984, la mission de la recherche est créée et est rattachée au cabinet du Premier ministre et témoigne de la politique en faveur de la recherche amorcée à cet endroit-là par l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et un des axes de développement, c'est les bases de données scientifiques, à ce moment-là aussi sur vidéodisque. Pendant les années 90, cette mission, qui est devenue la mission pour la recherche et la technologie, coordonne et produit de nombreux produits éditoriaux diffusant des résultats de la recherche sur Internet et qui va participer à la numérisation en masse. Et cette dernière politique va avoir une accélération avec le gouvernement Toubon, le ministère Toubon, en 94. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on va avoir aussi, les années 90-2000, une transformation de ces outils numériques, de ces outils informatiques professionnels qui vont devenir à destination des publics avec, du coup, d'importants travaux à la fois de mise en ligne, de campagnes photographiques, puisqu'au départ, ces bases de données sont des bases documentaires et écrites, il n'y a pas de photos. Et cette réflexion autour de l'adaptation à un public, un grand public, qui ne serait pas un public de chercheurs. Dans ces années, il va y avoir aussi un certain nombre d'appels à numérisation, certains dans le cadre de plans de relance économique, notamment en 2014, et qui vont permettre de continuer cette numérisation des collections, notamment des musées, mais aussi des archives et des bibliothèques. Dans cette chronologie, on retrouve aussi évidemment les sites Internet. Le ministère de la Culture, c'est la première administration française à se connecter à Internet en 92, à l'initiative de sa direction des services informatiques. En 94, un serveur est mis en place au ministère de la Culture avec 7 rubriques. Le ministère, son actualité, ses publications, sa documentation. Et la première exposition en ligne est le fruit d'une collaboration entre la direction des musées de France et l'INRIA à cet endroit-là, en 94, et va s'intituler « Le siècle des Lumières dans la peinture des musées de France ». Cette exposition en ligne, ça ressemble vraiment à une page Wikipédia, c'est du texte avec des liens hypertextes qui renvoient à d'autres pages. Quelques sites internet vitrines sont créés à cet endroit-là, à ce moment-là, avec soit des mécénats de compétences, et encore une fois, on voit le rôle de certaines entreprises et de prestataires, mais aussi des bricolages internes par des professionnels passionnés. Et quelques sites augmentés vont au-delà du site vitrine. Et par exemple, j'ai mis une capture là de celui du Musée des Arts et Métiers, assez précurseur à ce moment-là de ce que pourra devenir un site Internet avec un certain nombre de ressources et d'informations qui dépassent juste la présentation de l'établissement. À partir des années 2010, le site Internet devient un des supports privilégiés de la communication du musée. On pense à ce moment-là à faire beaucoup de refonte de sites Internet et tout d'un coup, les politiques numériques en ligne deviennent des stratégies. On réfléchit à ce qu'on va faire du site Internet au-delà d'une vitrine. C'est souvent l'occasion d'une refonte, d'une réflexion globale sur la communication du musée, l'image de marque du musée, l'identité visuelle qui va être pensée souvent à cette occasion-là pour le site Internet, mais aussi pour l'établissement lui-même. Les grands établissements vont aller alors à ce moment-là vers la création de sites multifonctionnels, voire de galaxies de sites, Avec des services commerciaux, la billetterie, la boutique, le mécénat individuel, l'accès à des bases de données qui deviennent à ce moment-là un des angles forts de ces sites Internet, de ces ressources. Évidemment, les agendas, les expositions passées, l'accès aux conférences, etc. Et on voit que ça devient un lieu central et d'articulation de cette politique culturelle en ligne des établissements qui va de plus en plus essayer d'articuler la visite sur place et le site Internet grâce aussi au développement de l'Internet mobile et des smartphones qui se développent à ce moment-là. Cette réflexion autour des sites Internet, elle est possible aussi parce qu'elle est soutenue par un certain nombre de professionnels ou de professionnels en devenir à ce moment-là, qui vont vraiment prendre à cœur cette réflexion autour du numérique. OK, 5 minutes. Et qui va être l'utilisation des réseaux sociaux par les musées. Et donc, cette réflexion, elle est possible grâce à un bouillonnement et des expérimentations dans les années 2010. Il faut aussi se rappeler que si les établissements se sont inscrits sur des plateformes et des services numériques qu'on a appelés les réseaux sociaux, c'était d'abord aussi pour des questions techniques, des problèmes d'infrastructure des sites Internet, donc typiquement les sites de vidéos et de photos, mais l'idée aussi de s'inscrire sur des plateformes avec des usages, l'idée de rencontrer des publics qui ne sont pas forcément des visiteurs. Tout un tas d'expérimentations techniques. NetVibes, à cet endroit-là, pour le musée de la Poste, était une manière de structurer des sites Internet, de montrer aussi, de remplacer des sites Internet, de montrer aussi que le musée fait partie d'un écosystème avec des ressources ailleurs. Des exemples aussi comme le musée de Toulouse et l'utilisation de Delicious qui va permettre de bookmarker un certain nombre d'articles et de montrer comment le musée est aussi dans un système réseau d'acteurs et un système de recherche. Alors là, j'ai encore deux parties. Je ne sais pas ce que je privilégie. La conclusion. Bon, alors disons. Alors, je vais y venir. Je vais en profiter quand même parce que ça, c'était important. Donc, cette communauté des muséos geeks. Qui, en fait, n'est pas seul, évidemment, va s'appuyer donc sur des expérimentations en ligne et des discussions permises sur les réseaux sociaux, à l'époque Facebook et Twitter, où c'était des environnements où on pouvait discuter assez tranquillement. C'est des environnements aussi qui permettent de discuter au-delà des barrières institutionnelles. Et tout d'un coup, des musées nationaux parlent avec des bibliothèques municipales, etc. Donc, c'est ça qui était aussi rendu possible. Mais on voit un certain nombre de séminaires, de blogs, de professionnels en formation, d'ateliers Wikipédia, d'associations, etc., de projets communautaires comme Muséonum, Omer Pesquer qui est dans la salle est un des responsables de cette chose-là, Muséomix aussi emblématique du projet et de ce bouillonnement des muséos geeks qui a permis, en fait, encore une fois, toutes ces bouillonnements d'expérimentation et de réflexion qui va permettre l'édition de guides, par exemple. Et je vous montre juste quelques slides de projets, puisque l'idée du community management, c'était de tester des choses, donc des manières, des énonciations variées, qu'on soit l'institution ou un objet de collection ou ces professionnels qui vont se mettre à parler sur les réseaux sociaux. L'invention de hashtags, par exemple, et de pratiques professionnelles communes. Par exemple, jour de fermeture a été très important comme une manière de créer des pratiques de médiation en ligne pendant que les établissements étaient fermés. Des alliances, enfin des pratiques in situ en ligne, avec par exemple des live tweets d'exposition et des invitations des fans à venir voir des expositions et avoir des présentations spécifiques. Et par exemple, ça, parce que c'est assez important, des manières aussi d'envisager la médiation avec des tons humoristiques plus légers qui correspondent aussi aux, aux, aux références culturelles des professionnels de cette époque-là, hein, l'humour, mais aussi la citation de pratiques de référence diverses, où on peut jouer aussi sur la pop culture, etc. Et puis, un des derniers exemples, parce que ça avait été quand même assez fort, de la médiation du musée de la Grande Guerre de Meaux autour de sa page Léon Vivien, qui reprenait l'histoire d'un soldat de la Première Guerre mondiale, comme si Facebook avait existé à ce moment-là, du moment de l'appel au moment de sa mort, et qui avait été suivi par des milliers de personnes. Voilà. Et donc, des manières de créer des médiations différentes, que ça soit au niveau un peu du ton et des références qu'on va citer, ou à des manières d'utiliser des écritures différentes et des narrations différentes en utilisant ces réseaux sociaux. Bon, je coupe, je m'arrête là.
Vas-y, vas-y.
Oui.
Encore 5 minutes ? Ok. Projet raté, mais très important aussi des certaines conceptions de la médiation et de la manière dont les projets numériques sont conçus aussi dans les musées. La communauté Louvre, sur le modèle de Facebook, créée par le musée du Louvre et à l'époque Orange, qui témoigne de cette collaboration toujours entre des prestataires, des entreprises qui vont imaginer des valorisations de leur technologie par des projets avec des musées, hein, une valorisation symbolique. Mais là, assez caractéristique, car tout d'un coup, c'est une conception aussi où le musée va reprendre la main sur le cadre de participation en faisant quelque chose d'assez top-down à cet endroit-là et avec quelque chose qui n'était relié à aucun usage précédent, et même la plateforme n'était reliée ni à Facebook, ni à Twitter, etc. Donc, un projet qui a raté, mais qui témoigne vraiment d'un certain nombre de conceptions. Très rapidement, en 2018, le rapport que je citais tout à l'heure nous a permis de penser 3 orientations qui ne sont pas forcément exclusives les unes des autres des politiques numériques. J'en parle rapidement là. Des politiques orientées tourisme et international, où le lien entre l'in-situ et le site internet est extrêmement fort. Une structuration très forte des sites pour trouver les informations pratiques, les plans pour s'orienter, la mise en avant des multiples offres culturelles et commerciales et un multilinguisme très fort. À cet endroit-là, les références qui sont citées par les professionnels sont plutôt celles des grandes marques, des grands magasins comme Model ou des grandes institutions culturelles à l'international. L'idée à ce moment-là est que la politique en ligne serve à augmenter la fréquentation in situ. Des établissements qui vont se poser plutôt à ce moment-là comme où les politiques numériques servent à montrer une image de précurseur avec des innovations techniques et d'usage. Ce genre de choses est possible avec la désignation des entreprises de pointe et des start-up comme acteurs privilégiés. La mise en place de réorganisations professionnelles, institutionnelles qui vont permettre d'avoir un soutien hiérarchique fort, une autonomie des services, une veille et une formation des professionnels en interne qui va pouvoir développer ses propres projets à l'interne. Là, je vous montre l'exemple du CMN, mais il faut savoir que c'est des choses qui ont été pensées, qui ont été proposées assez tôt. Muséomix en était un des exemples, avec l'idée de remixer le musée. Mais on repense aussi à l'automne numérique en 2013, au Silicon Valois en 2014, organisé par le ministère de la Culture, et tous les services culturels innovants qui font des entreprises et des startups des partenaires privilégiés des politiques. Et enfin, le dernier axe, c'est plutôt des politiques numériques centrées sur la recherche, l'accès et la diffusion des connaissances, avec encore une fois un développement très fort des numérisations 2D et 3D, le développement de contenus riches, éditorialisés, et l'idée qu'on a une rationalisation du travail dès le départ des projets pour se dire je pense mon projet de recherche de manière à ce qu'il y ait des externalités sur le web ou sur les réseaux sociaux ou sur une borne dans mon musée. Et à ce moment-là, l'attention est vraiment poussée sur les formats d'écriture de web, la question de des enrichissements des données, etc., pour qu'il y ait une meilleure référencement, par exemple. Et à cet endroit-là, la référence mobilisée par les professionnels est celle du service public et du dédoublement du service public en ligne. Je m'arrête. Merci.
Merci beaucoup pour cette présentation très basse. Il y aurait tellement à évoquer les prochaines journées et prochaines années pour être l'occasion d'explorer tout ça. On a déjà plein d'éléments entre vos trois présentations sur la prise que l'on souhaite restituer. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et avant de passer la parole à Amprignon et à Stéphanie Orlik, je voulais quand même laisser la possibilité de poser une ou deux questions. On est un petit peu repart sur le temps, mais... Et puis là...
Alors, on peut aussi faire une petite roue